Restez avec nous, nous sommes toujours ensemble, bien évidemment, et en direct, nous sommes ensemble pour parler également, et je l'annonçais en début d'émission, on parle également de thyroïde, et pour y voir plus clair, pour essayer de faire le point donc avec nous, ce matin, notre spécialiste en ORL, spécialiste également en chirurgie cervico-faciale, et en vertige, docteur Hamida Ardaoui, bonjour.
Bonjour Myriam.
Vous êtes avec nous depuis Casablanca, merci de répondre présente à cette invitation sur Média.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
D'abord, pour comprendre comment peut-on définir la maladie et puis quelle est sa fonction tout simplement dans l'organisme.
Alors la thyroïde tout d'abord, c'est un organe, c'est un petit organe qui se trouve au niveau de la partie médiane basse du cou. C'est une glande qui fabrique des hormones. Alors, elle est constituée de deux lobes qui sont réunis au milieu par l'anus et qui a grossièrement la forme d'un papillon. Alors, sa fonction principale, c'est la fabrication d'hormones thyroïdiennes, à savoir l'hormone T3 et T4, qui sont des hormones qui contrôlent le métabolisme de base de l'organisme de deux façons. Alors, en stimulant presque tous les tissus de l'organisme pour produire des protéines et en augmentant la quantité d'oxygène utilisée par les cellules. Alors, de ce fait, ces hormones vont affecter de nombreuses fonctions vitales de l'organisme, comme la fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle les calories sont brûlées, l'intégrité de la peau, la croissance, la production de chaleur, la fertilité et aussi la digestion.
Ces maladies de la thyroïde, on en parle assez souvent, c'est vrai. Alors, comment peut-on reconnaître, donc, quelles sont les maladies de la thyroïde qu'on peut avoir et qui sont assez récurrentes, donc, docteur?
Alors, les maladies de la thyroïde sont nombreuses et diverses. On peut néanmoins les classer en deux grandes catégories. Alors, tout d'abord, tout ce qui touche à la morphologie de la thyroïde, qui peut être soit une augmentation du volume de la thyroïde, qui peut être une augmentation diffuse du volume de la thyroïde qu'on appelle goitre thyroïdien. On peut avoir aussi la formation d'un ou de plusieurs nodules au niveau de la thyroïde, et là, on parle de nodules thyroïdiens, ou alors l'association des deux, c'est-à-dire une augmentation du volume de la thyroïde avec l'apparition de nodules, et là, on parle de goitre nodulaire. Ça, c'est tout ce qui touche à la morphologie de la thyroïde. On a en deuxième grande catégorie tout ce qui est dérèglement hormonal. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, la thyroïde, sa fonction principale, c'est de produire et de fabriquer des hormones. Alors, on peut avoir tout ce qui touche la synthèse et la fabrication de ces hormones. Alors, soit une hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes qu'on va appeler hyperthyroïdie.
Oui.
Et qui correspond donc à une accélération du métabolisme qui va cliniquement se manifester par de la nervosité, de l'irritabilité, une perte de poids, une augmentation du débit cardiaque, une tachycardie, une sensation de faiblesse, de l'asthénie, des selles fréquentes, une hypersensibilité à la chaleur, une hypersudation, des tremblements, etc. Et on a le contraire qui est l'hypothyroïdie, donc une baisse de la sécrétion des hormones thyroïdiennes qui correspond donc à un ralentissement du métabolisme et qui va se manifester par des troubles de la concentration, des changements d'humeur qui peuvent aller dans certains cas de la dépression. On peut avoir des cheveux secs, une peau sèche, un gonflement autour des orbites, des paupières tombantes, une baisse de la fréquence cardiaque, etc. Ça va être tout ce qui va ralentir le métabolisme.
D'accord.
Donc si on veut vraiment classer ça en deux grandes catégories, tout ce qui est dérèglement hormonal et tout ce qui touche à la morphologie de la thyroïde.
D'accord. Alors, est-ce que le diagnostic finalement se pose de la même manière? Comment posez-vous le diagnostic, docteur Ardaoui? Je rappelle que vous êtes spécialiste en ORL et en chirurgie cervico-faciale.
Alors, le diagnostic commence bien évidemment par l'examen clinique, par déjà l'interrogatoire du patient. Il y a des patients qui vont soit venir pour tous les signes que je viens de citer, qui vont être soit dans de l'hypersécrétion ou de l'hyposécrétion, ça concerne le dérèglement hormonal. Donc, ça va plus être un diagnostic qui va se faire, on va se baser sur ce qu'on raconte le patient, et puis par la suite, bien sûr, faire un bilan. Et on a l'examen clinique qui passe par la palpation du cou, parce qu'il faut savoir qu'en palpant le cou, on peut apprécier la taille de la thyroïde, sa consistance, sa mobilité, et éventuellement palper d'éventuels nodules thyroïdiens. Ensuite, on peut s'aider de la paraclinique. On a le premier examen paraclinique à demander, c'est l'échographie cervicale de la thyroïde, ce qu'on appelle l'échographie thyroïdienne. C'est le premier examen radiologique qu'on demande en matière de pathologie thyroïdienne. Alors, c'est un examen clé parce qu'il va nous donner beaucoup de renseignements. On va avoir des renseignements sur la taille de la thyroïde, sa consistance, son échogénicité, sur la présence de nodules et surtout les caractéristiques de ces nodules. Parce qu'il faut savoir que le fait de caractériser ces nodules va nous donner une orientation clinique vers le caractère bénin ou malin des nodules. On peut savoir, dès l'échographie cervicale, est-ce qu'il y a une suspicion de malignité, c'est-à-dire de cancer thyroïdien.
D'accord.
Et puis, troisièmement, on a le dosage hormonal. comme c'est une glande qui fabrique des hormones, donc on va doser les hormones thyroïdiennes, la T3, T4, mais surtout, ce qu'on dose le plus souvent, c'est la TSH, qui est une hormone qui est produite par l'hypophyse et qui va, elle, contrôler la sécrétion des hormones thyroïdiennes.
D'accord.
Donc ça, c'est les examens qu'on utilise. Il existe bien évidemment d'autres examens en fonction du contexte clinique.
D'accord. Alors, une fois que le diagnostic est posé, docteur Ardaoui, j'imagine qu'il y a différents traitements donc possibles.
Oui, bien évidemment. Alors, on peut résumer ça en trois volets thérapeutiques principaux, trois possibilités de traitement principales. On a tout d'abord la surveillance médicale. La surveillance, c'est-à-dire que c'est des patients chez qui on va administrer aucun traitement. Et c'est-à-dire que c'est des patients qui n'ont pas de pathologie qui nécessite une prise en charge chirurgicale ni l'administration d'un traitement médical. Ça va être soit des nodules très petits ou alors avec des caractéristiques très bénins. Et bien sûr, avec une sécrétion hormonale qui est conservée. Ensuite, on a le deuxième volet thérapeutique, c'est le traitement médical. Mmh. Alors là, c'est plus pour, alors c'est pour deux cas de figure. C'est pour les gens qui ont un dérèglement de la sécrétion hormonale. Et c'est aussi pour les gens qui ont été opérés, chez qui on a enlevé toute la glande thyroïde. Il faut savoir que quand on fait une ablation de la thyroïde, il faut administrer un traitement substitutif à vie chez le patient. Parce que ces hormones, comme je dis au début, sont essentielles à la vie. Et puis, on a le traitement chirurgical, alors qu'il y a la chirurgie de la thyroïde, qu'on va proposer principalement, essentiellement, devant deux raisons. Alors, quand on a une taille importante, soit de la thyroïde, soit des nodules thyroïdiens, il faut savoir que des nodules volumineux, une thyroïde volumineuse peut entraîner une compression des organes de voisinage. À ce moment-là, il faut intervenir chirurgicalement. Ou alors, quand on a une existence de signes, soit à la clinique, soit à l'échographie, qui vont faire évoquer une suspicion de cancer thyroïdien. Là aussi, il faut intervenir chirurgicalement.
D'accord.
Voilà.
Peut-on jeûner lorsqu'on a une maladie de la thyroïde? Et c'est une question que se posent forcément bon nombre de patients.
Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas de maladie de la thyroïde qui soit une contre-indication absolue au jeûne.
Oui.
Donc, néanmoins, il y a beaucoup de précautions à prendre. Alors, il faut savoir pour les patients qui ont tout ce qui est anomalie morphologique à la thyroïde, il n'y a aucun qui ont des, par exemple, des goitres thyroïdiens, des nodules thyroïdiens, avec une conservation de la sécrétion hormonale qui sécrète des hormones normalement. Là, il n'y a pas la moindre contre-indication, les gens peuvent jeûner normalement. La seule catégorie de personnes qui posent problème, c'est les gens qui ont une hypothyroïdie, c'est-à-dire une baisse de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, ou alors une absence de sécrétion quand on a déjà enlevé la thyroïde. Alors ces patients peuvent bien évidemment jeûner. Il faut savoir que les changements de taux d'hormones, leur concentration de TSH durant le jeûne en général sont minimes et n'altèrent pas la santé des individus. Néanmoins, on a remarqué que le jeûne entrave l'observance du traitement chez les hypothyroïdiens. C'est-à-dire que les gens prennent moins bien leur traitement, moins régulièrement et ne sont pas très assidus. C'est ce qui les expose à des soucis de santé et non pas le jeûne en lui-même.
D'accord. Alors justement, comment est-ce qu'on peut prendre son traitement durant ce mois du ramadan?
Très bonne question. Alors là, on va parler plus des hypothyroïdiens, c'est-à-dire des gens qui ont une baisse de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, alors qu'ils vont prendre de la levothyroxine. La meilleure façon de prendre le traitement, c'est de prendre au moment de la rupture du jeûne.
Oui.
Et de rester et de ne pas manger pendant 30 minutes.
Mmh.
C'est la meilleure façon de le faire. Ben, néanmoins, ça va un peu prolonger cette période de jeûne, ce qui n'est pas accepté par tous les patients.
Mmh.
Donc, pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, on propose une deuxième façon de faire, c'est de rompre son jeûne, manger normalement, et puis attendre 3 à 4 heures avant de prendre son traitement.
D'accord.
S'assurer que l'estomac se vide complètement, ensuite prendre son traitement et attendre encore une fois 30 minutes avant de manger quoi que ce soit. C'est la deuxième façon de faire, qui est aussi valable. Le tout est de s'assurer de prendre son traitement sur un estomac qui est vide et de ne pas manger 30 minutes après pour assurer une meilleure absorption du traitement.
D'accord. On va finir avec les précautions à prendre durant ce mois. Docteur Ardaoui, quels seraient vos conseils à toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie? Vos conseils sont précieux ce matin.
Alors, les conseils qu'on pourrait donner aux gens, et là encore on parle des hypothyroïdiens, ça serait déjà de refaire un bilan thyroïdien avant Ramadan pour faire un peu le point et puis ajuster le traitement si nécessaire. Ensuite, une bonne observance du traitement, comme je viens de le dire, le jeûne ne constitue pas une contre-indication, n'expose pas à de problèmes de santé. Néanmoins, le fait de mal prendre son traitement va entraîner des conséquences fâcheuses. Ensuite, il faut éviter, par exemple, la prise concomitante d'aliments qui vont entraîner une baisse de l'absorption de cette lévothyroxine, notamment, je vais citer trois, le café, pamplemousse, tout ce qui est pansement gastrique. Alors, tout ça ne doit pas être pris en concomitance avec le traitement.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Docteur Hamida Ardaoui, vous êtes spécialiste en ORL, en chirurgie cervico-faciale et en vertige. Vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. C'est un entretien qui peut être réécouté sur notre site médien.com. À très bientôt, docteur.
Au revoir.